boîte. Sortie de boîte, Cédric Adrover.
Vous voulez qu'on se rencontre au Locle, au Noirmont, à Lausanne? Oui, notre invité ce soir a plusieurs lieux de travail. C'est finalement dans les Franches Montagnes que je me suis rendu. On ne se connaît pas particulièrement, mais très vite, il propose qu'on se tutoie. J'accepte, même si ce soir, c'est de la radio et le vouvoiement restera de rigueur même. L'homme est accueillant, on sent qu'il est dynamique. À peine arrivé, on visite tout de suite son entreprise, une ancienne usine à l'abandon, bien retapée, à en croire les quelques vestiges des anciens locaux qu'on peut voir ici ou là. L'entreprise s'appelle Geosatis. On passe d'une pièce à l'autre, et il fait des démos. Il me présente chaque collaborateur, il rigole, il est direct, oui c'est détendu, mais c'est aussi très sérieux, parce que dans cette entreprise, on fabrique des bracelets de surveillance électronique pour des détenus. Donc pas question de faire des photos n'importe où. Dans l'open space, les compétences sont multiples et les bureaux ne se ressemblent pas. Des pièces sur les bureaux des ingénieurs, des antennes sur celui du docteur en radiotélécommunication, des papiers sur le bureau de la criminologue. Selon ses mots, il est le mec qui a le moins de diplômes dans cette boîte. Mais c'est bien lui qui dirige Geosatis et qui est notre invité ce soir. José Demetrio, bonsoir.
Bonsoir.
Le mec qui a le moins de diplômes dans son entreprise, c'est une fierté ?
Bon, c'est une fierté, mais c'est surtout la réalité.
C'est vrai, il n'y a que des gens blindés de diplômes et vous pas.
Ouais, c'est ça.
L'histoire de Geosatis, elle a commencé il y a 15 ans. Vous êtes électricien, vous vous retrouvez à devoir travailler sur un projet pour la prison de Genève. Vous pouvez nous raconter cette histoire ?
Oui, ça s'est passé très simplement. Alors, électricien à la base, et après je me suis formé dans les télécoms et puis dans une partie dite de sécurité. C'est pour ça que je me suis retrouvé à Chandelon pour développer un système de brouillage. Et c'est là que la discussion avec la direction c'est simplement fait autour d'un café. Et c'était de trouver un système pour peut-être permettre un peu à fluidifier et à permettre la réinsertion. On parle de 2006 où il y avait les débuts aux États-Unis de bracelets électroniques. En Europe, on n'en parlait absolument pas, même si la Suisse était pionnier dans les tests.
Ouais, et du coup, là, vous remarquez qu'il y a potentiellement un problème que la technologie pourrait résoudre.
Je fais comme tout le monde, j'ai dit mais ça existe déjà, il y a qu'à prendre ce qui existe sur le marché, et la réponse a été oui, mais ça ne nous plaît pas, puis on aimerait aller un petit peu plus loin que simplement de traquer l'individu.
Alors de ce constat à la création de la société, il y a un sacré parcours, hein. Vous êtes passé dans ce qu'on appelle un incubateur d'entreprise, vous êtes retrouvé vite à l'étroit, vous emménagez dans de nouveaux locaux, aujourd'hui vous avez plus de 20 collaborateurs avec des compétences très différentes, il y a des techniciens, informaticiens, criminologues, des commerciaux, comment vous faites pour que tous ces gens parlent le même langage ?
C'est très simple, ils doivent se mettre à mon niveau déjà pour pouvoir m'expliquer les choses. Donc ça fait déjà que c'est accessible par tout le monde. Et puis après, je pense que c'est une équipe de passionnés. Et si on aime ce qu'on fait, on essaie de le partager et de le faire comprendre par tout le monde. Quoi.
Le siège est au Noirmont, la production se fait au Locle, vous êtes aussi à Lausanne. Le multisite, ça complique la gestion d'une entreprise ?
Il y a énormément de sociétés qui sont multisites. Alors nous, ce qui complique, c'est qu'une journée, pour nous, ça a quand même 24 heures comme tout le monde. Et les déplacements, ça prend du temps. Donc il faut vraiment bien réfléchir avant de se déplacer. Et si tout le monde est mobile, c'est le cas des ingénieurs qui sont à Lausanne, qui viennent 2 jours à 3 jours par semaine au Noirmont. Si tout le monde joue le jeu, ça va.
Dans l'équipe, le recrutement, vous le faites comment ? Vous cherchez quel profil de gens ?
C'est selon le développement du produit. Au départ, on faisait un peu tout. Beaucoup de monde faisait énormément de choses. Maintenant, on est en train de se sectoriser. Et donc, le recrutement se fait simplement déjà des bouches à oreille par rapport à certains ingénieurs. Et puis, on utilise malheureusement ou heureusement des sociétés de placement de personnel.
Faire venir des gens de l'EPFL au Noirmont, ça va, c'est pas compliqué ? Ils n'ont pas un choc en arrivant ?
Il faut juste les faire venir. Donc on a un principe de faire une semaine de stage chez nous avant même qu'eux ils disent oui ou nous on dise oui. Et puis normalement ça se passe toujours bien. Ça dépend si le brouillard est là. Là c'est un peu plus difficile.
Le premier jour. Ouais. Votre produit est particulier. Il s'agit donc d'un bracelet de surveillance pour les détenus. En gros, ce qu'on met à la cheville d'une personne pour suivre ses déplacements quand elle purge sa peine en dehors d'un établissement carcéral. Vous n'êtes pas les seuls à en fabriquer. Comment vous vous distinguez de la concurrence ?
Déjà. Dès le départ, on a écouté le client. Alors ça semble bête, mais on a demandé ce qu'il voudrait dans le futur, dans 2-3 ans. Et puis on n'a pas donné de limite. Ça nous a fait partir très loin. Aujourd'hui, on y est et on développe complètement le produit. Et c'est ça qui a vraiment fait la grande différence. Et c'est un nouveau regard. Nos concurrents sont souvent militaires et de la sécurité. Chez nous, la seule personne qui a travaillé dans la sécurité, c'est moi. Donc ça fait que c'est des geeks plutôt qui regardent le problème pour essayer d'amener une solution et un produit.
Une autre approche, on va y revenir, en parler ensemble. D'abord, découvrons ce bracelet. Jean-Michel est venu dans votre entreprise pour assister à une démonstration. C'est votre directeur opérationnel, José Manuel Fedjou, qui nous en fait la démonstration.
Sortie de boîte.
Alors en fait, le bracelet est en deux parties, parce qu'une partie contient en fait des batteries et l'autre partie en fait contient toute l'électronique, toute l'intelligence du bracelet qui permet d'avoir toutes les fonctions du bracelet. Donc en fait, la partie batterie, ben, c'est très simple. Hein. On a quatre batteries à l'intérieur avec un système qui permet de contrôler les batteries, mais également en fait des petits moteurs qui permettent en fait de verrouiller le bracelet et de faire que ça soit impossible en fait à main nue de pouvoir l'ouvrir. Juste pour un petit détail, il faut à peu près exercer une force de plus de 300 kg pour pouvoir commencer à déformer le bracelet. Et là, on ne l'a pas encore cassé. Pour la partie électronique, donc là, en fait, on a une carte électronique. Donc déjà, en fait, on a un module GSM hein, qui permet de faire la communication du bracelet, parce que le bracelet est un objet connecté. Un module GPS qui permet en fait de faire toute la partie localisation. Après, on a différents mécanismes de protection hein, qui permettent justement de lutter contre les gens qui essaieraient de tricher ou de couper le bracelet. Certaines alarmes partent et qui permettent d'avertir en fait les gens qui contrôlent qu'il y a un événement qui se passe sur le bracelet. Ça, c'est le chargeur. Donc en fait, pour ouvrir notre bracelet, il y a plusieurs façons de l'ouvrir. Une des façons, c'est qu'en fait, on a une clé électronique qu'on appose sur notre bracelet. Là, on voit, en fait, elle envoie un message au bracelet. Le bracelet a compris qu'on essaie de l'ouvrir. Je presse sur les côtés pour lui dire au bracelet, je veux t'ouvrir. Le bracelet a compris qu'on voulait l'ouvrir. Et je tire sur les deux parties. C'est vraiment un jeu d'enfant d'ouvrir notre bracelet. Par contre, une fois qu'il est fermé, c'est quasiment impossible de l'ouvrir sans tout casser, quoi. Et je peux le refermer très simplement en rapposant les deux parties, pressé sur les côtés. Et voilà, notre bracelet est fermé. Il vient de dire, je suis fermé, correctement fermé, opérationnel. Notre souhait, en fait, c'est d'aller quand même beaucoup plus loin que simplement contrôler des positions des gens, mais c'est vraiment servir à de la réinsertion. Effectivement, on a des détecteurs de mouvement tridimensionnels qui nous permettent de savoir si la personne est en train de marcher, si elle est en train de courir, si elle a un rythme de vie qui est normal, si elle est stressée, si elle n'est pas stressée, si elle est en train de bien effectuer sa réinsertion. Ça, car c'est quand même un objet qui sert à ça à la base, c'est réinsérer des gens dans la société.
Sortie de boîte.
On est de retour en studio avec José Demetrio, fondateur de Geosatis. Ce bracelet, il y a l'aspect technique, hein, on l'a entendu, il est rempli de technologie. Mais José Manuel Fedjou nous a aussi parlé de réinsertion, en évoquant rapidement différentes pistes. Comment un bracelet qu'on porte à une cheville peut faciliter la réinsertion d'un détenu ?
C'est un objet déjà qui est en permanence sur l'individu, qui va vivre avec 24 heures sur 24, et selon ce que le procureur, le juge aura décidé, est-ce que ça va être une semaine, un mois, deux jours, trois jours, une année, deux ans, ça dépend vraiment des pays. Donc c'est un objet qui peut remonter énormément d'informations pour que les accompagnants de l'individu puissent au moins savoir quand est-ce qu'il a peut-être un besoin, parce que des fois on ne dit pas nos besoins, et c'est des informations qui sont importantes.
Mais ça veut dire que vous pouvez savoir quoi sur la base d'un bracelet ? On a parlé des déplacements, son moral, comment ça fonctionne exactement ?
Alors, je vais peut-être pas aller dans le détail, parce que je suis pas sûr que... je pense qu'on nous écoute jusqu'en Tel Aviv et aux États-Unis. Mais,
évidemment.
Donc disons, on a énormément de capteurs. Il faut imaginer, aujourd'hui, on parle d'objets connectés, de Fitbit et de choses comme ça. Nous, ça fait depuis 2010 qu'on intègre des capteurs. Ces capteurs permettent simplement, avec des professionnels derrière, de dire oui ou non. Mais pas tous les pays utilisent, pas tous les pays travaillent là-dessus. C'est vraiment... beaucoup de professionnels disent que c'est l'avenir, c'est accompagner l'individu. La punition, elle est là, bien sûr, mais c'est la réinsertion qui compte le plus aux yeux de la société.
Vous avez une criminologue dans l'équipe. Quel est son travail exactement ?
Alors c'est vrai que c'est la troisième ou quatrième personne qui a commencé chez nous. Elle a commencé chez nous déjà parce qu'on recevait des demandes de certains pays qui nous disaient on veut des bracelets, mais si la loi n'est pas prévue pour, on a beau envoyer les tonnes et les tonnes de bracelets, ils ne vont pas pouvoir les utiliser. Ça, c'est déjà la première des choses. Deuxièmement, on est une partie technique et nos clients, nos premiers clients, c'est les gouvernements, des juges, des procureurs, des gens qui doivent faire appliquer des lois. Donc il faut savoir dire aux gens de la technique, non, on ne fait pas ça. La prise de données sur le terrain, des choses comme ça, il y a des lois dans des pays. Donc, c'est pas Big Brother. Et ça, elle a été très claire avec tous les ingés. Même si on a envie de faire plein de choses avec cette électronique, eh ben, elle nous freine et elle s'assure qu'on respecte un certain cadre. Elle a mis en place une charte éthique. Voilà, il y a énormément de choses.
C'est elle qui met les garde-fous.
C'est elle, en tout cas, qui nous donne des directives et qui nous sort un petit peu de notre monde technique.
Mais aujourd'hui, concrètement, juste en donnant deux, trois exemple, vous pouvez savoir quoi de quelqu'un qui porte ce bracelet?
On peut déjà savoir la géolocalisation, c'est déjà pas mal. Et puis après, selon les profils et selon les comportements à l'extérieur, on peut dire clairement est-ce qu'il se réinsère ou il se réinsère pas. L'exemple de il doit rentrer à 5h, le premier soir c'est 5h, le deuxième soir c'est 5h, mais au bout d'un mois peut-être que ça sera 5h15, 5h30, 6h, l'accompagnant a envie de savoir s'il y a une dérive ou il n'y a pas une dérive. Cette information, aujourd'hui, elle peut être générée automatiquement par la plateforme.
Alors vous parlez de l'accompagnant, on va en parler un petit peu parce qu'il y a le bracelet, mais il y a aussi la base de la station, celle qui reste à la maison, elle a plusieurs rôles. D'ailleurs, vous avez une station qui peut notamment déceler l'alcoolémie, mais c'est surtout une centrale de communication. En quoi c'est important ?
Le lien qu'il va avoir entre les probations ou d'autres départements, ça dépend les pays, c'est ce lien de télécommunication, ce lien informatique, ce boîtier en plastique avec un écran tactile et puis un bracelet qu'on a à la cheville qui va nous permettre de garder le lien avec l'individu. Donc c'est vrai que la visibilité et en tout cas l'accompagnement, il est restreint à ça. Donc c'est pour ça que cet appareil-là doit rentrer dans le milieu familial, doit rentrer dans la vie de tous les jours et doit en donner des informations les plus neutres possibles pour que le professionnel puisse vraiment prendre les bonnes décisions.
Il y a tout l'aspect technique, l'aspect technologique, mais il y a aussi l'aspect humain, on en a un petit peu parlé, mais est-ce que vous essayez de faire pour que cette base, ce bracelet, qui peuvent être des choses quand même honteuses quand on se promène, est-ce que vous cherchez à les cacher, à les rendre, à faciliter à ce niveau-là aussi la réinsertion ?
Alors, déjà la stigmatisation d'un individu qui porte un bracelet électronique, alors il y a certains endroits, ça devient une habitude, dans certains quartiers aux États-Unis, il y a...
Je ne veux pas dire que...
Chaque famille on en a un dans sa famille, donc mais c'est vrai que si vous allez à la piscine, on a fait des tests en piscine, les gens s'éloignent de vous au fitness, les gens vous regardent un peu de travers. Donc on a essayé de faire un objet très très design et très discret. Et la deuxième personne qui a commencé chez nous, c'est une ingénieure en design industriel où ses collègues font des montres, elle fait des bracelets électroniques.
Ce qui est étonnant, c'est que dans vos différents produits, il y a le bracelet, il y a la base, il y a aussi quelque chose qui s'adresse aux victimes. Avoir pensé aux victimes, ça, vous étiez les premiers à le faire ?
Alors, on n'était pas les premiers, mais il y avait une société qui était partie là-dessus. Et nous, on pense quand même que la violence domestique ou d'autres victimes ont besoin d'un objet et puis doivent pouvoir alerter la police à tout moment.
Comment ça fonctionne, du coup ?
Alors, aujourd'hui, on a un device et puis on est en train de travailler sur une application qui permet d'être géolocalisé à tout moment. Ça dépend toujours ce que la victime veut, parce qu'en fait, la victime, elle n'a pas une obligation. Et puis, avec un bouton d'alarme rapide et qui donne sa géolocalisation et qui informe directement la police où se trouve la victime. Et surtout, il y a un délinquant ou quelqu'un qui peut s'approcher d'elle. Voilà.
Vous l'avez dit tout à l'heure, vous travaillez à l'international avec des gouvernements. Quand on travaille dans un domaine comme ça, sur un marché comme celui-ci, ça ne doit pas être simple de prospecter. Comment vous approchez vos clients qui sont essentiellement des gouvernements, en fait ?
Alors, des fois, ça semble compliqué, mais des fois, les premiers contacts, c'est les plus faciles. Donc, souvent, un pays cherche à s'équiper. Un ministre annonce qu'il va mettre des bracelets électroniques. Il y a une surpopulation carcérale, donc c'est souvent un problème à tous les pays. Et puis, ils vont sur Internet. Et puis, c'est vrai qu'il y a à peu près 10 fabricants. Il y en a 5 dans le top. Et puis, nous, on fait partie des rois du top. Donc, naturellement, ça vient déjà chez nous. Et puis après, on regarde la véracité et surtout à quel niveau du stade du développement ils en sont, et puis, puis on démarre comme ça, quoi.
Vous enquêtez, c'est peut-être un grand mot, mais vous vous renseignez aussi sur l'utilisation qui sera faite de ces bracelets dans le pays.
Bah, c'est important, hein. Comme je disais, on a une charte éthique dès le départ de la société. On n'a pas fait ce produit pour en faire des esclaves modernes, hein. On a refusé 3 contrats et on a vraiment besoin de gagner des marchés, de prouver que ça marche, mais on a quand même refusé parce qu'en fait, on ne savait pas où ils voulaient l'utiliser.
Vous avez des clients dans quel pays actuellement ?
Aujourd'hui, l'Afrique du Sud, c'est officiel. La Lituanie, ça a été officiel, donc ça, je peux en parler. Mais on a 10 pays en cours. Aujourd'hui même, où je vous parle, il y a 3 pays en test. C'est des gouvernements qui testent le produit. Donc des pays du Sud, des pays du Nord, et puis d'Amérique, on va dire.
La Suisse ?
Bah, la Suisse, ça fait plusieurs années qu'ils y réfléchissent. Il y a des commissions qui se mettent en place. La Suisse a cette particularité d'avoir 26 ministres de justice, des chefs de cabinet, tout ce qui va avec. Et puis, il faut aussi adapter les lois. Et on est, je pense, très regardant avant de mettre quelque chose sur le terrain.
Du coup, c'est lent.
Je ne dirais pas que c'est lent, disons, ça prend le temps qu'il faut.
Vous êtes une entreprise high-tech, hein, avec la pression d'innover sans cesse, d'investir encore et encore. Vous arrivez à être rentable aujourd'hui ?
Alors, on est comme toutes les sociétés dites de la Silicon Valley ou des sociétés qui font de l'high-tech. Aujourd'hui, on investit pour prendre des parts de marché, développer notre technologie et puis pouvoir devancer la concurrence au niveau international, parce qu'on ne se bat pas avec les mêmes moyens pour avoir une année à 2 ans d'avance du point de vue techno, pour gagner des marchés et convaincre des clients. C'est sur cette partie-là. Donc aujourd'hui, tous les 1 franc qui viennent dans la société, c'est pour grandir et prendre des parts de marché.
Donc vous n'êtes pas encore rentable ?
Non.
C'est quoi les objectifs de développement aujourd'hui, les défis que vous affrontez ?
Alors aujourd'hui, les défis, c'est de... On aimerait pour d'ici fin de cette année d'avoir un pays dans chaque continent. Donc on est en train de réaliser de convaincre des investisseurs. Alors on essaie de convaincre des industriels de venir dans ce projet-là. C'est un projet industriel et un projet humain. Et puis d'amener vraiment une solution sur le terrain, parce que chaque pays est différent, chaque culture, chaque religion. On est vraiment sur toute la planète et il y a une grande différence.
Vous avez évoqué la Silicon Valley tout à l'heure. Il manque quoi à la Suisse pour avoir les mêmes conditions que la Silicon Valley ?
Ouais, je pense qu'il faudrait énormément de temps pour en parler, mais je pense que l'innovation, elle est là, la volonté, elle est là, la qualité qu'on a depuis des années, pour ne pas dire des siècles, elle est là aussi. Aujourd'hui, on est quand même dans une culture d'assurance et de banque, donc ce n'est pas normalement des industries qui prennent des risques. Je pense qu'il y a des risques à prendre, mais sinon... Il faut aussi laisser le temps. La Silicon Valley n'est pas née en une année. Elle a pris énormément de temps. Et puis, il a fallu des fous à un moment pour réinjecter l'argent qu'ils gagnaient. Donc, je pense qu'on va y arriver.
Vous faites partie de ces fous.
Bah, en tout cas, pour l'instant, je n'ai pas injecté dans les autres boîtes. J'ai déjà énormément avec la mienne. Mais c'est vrai qu'il y a énormément de jolis projets qui se créent en Suisse, quoi.
Une des industries majeures de la Suisse, c'est évidemment l'horlogerie. D'ailleurs, c'est une des raisons de l'établissement de votre entreprise dans l'Arc Jurassien, région horlogère. C'est quoi le rapport entre une montre et un bracelet de surveillance électronique ?
Bah, déjà, j'étais venu ici un petit peu pour rencontrer l'industrie, puis j'étais venu déjà pour fabriquer dans le Jura, et après, bah, en rencontrant les gens, ça se porte sur un membre, alors ça se porte à la cheville, ça a les mêmes contraintes de sueur, de transport, d'utilisation, on va dire ça comme ça, et puis il y a un savoir-faire, il y a une qualité, il faut être minutieux. Donc, cette qualité, on peut la transposer dans nos produits. Et c'est ce que viennent chercher les clients qui viennent de l'étranger. Chaque fois qu'ils visitent notre usine, bah, ils ont l'impression d'arriver dans un atelier, quoi. Et ça, je pense qu'on ne se rend peut-être pas compte, depuis la Suisse, le regard qu'on a sur nous, sur la région et sur la Suisse depuis l'étranger.
Mais concrètement, il y a eu des synergies à un moment donné entre l'industrie horlogère et Geosatis ?
Alors, les deux moteurs qui permettent de verrouiller toute la partie mécanique a été développée au départ et fabriquée les premiers à Kourou. Après, on a fabriqué une autre partie, puis là, on a rapatrié au Noirmont la production mécanique.
Dans Sortie de boîte, on aime aussi bien les montres. D'ailleurs, on termine chaque émission avec une chronique horlogère. C'est Marie-Lise Saillard qui s'en est occupée. Elle était à l'heure pour son rendez-vous avec l'espion qu'il aimait.
Pile à l'heure.
On déroule le tapis rouge cette semaine dans Pile à l'heure. Le Festival de Cannes s'est terminé récemment, mais je vous propose de rester encore un peu dans le milieu du 7e art. le remarquez pas forcément quand vous êtes au cinéma ou devant votre téléviseur, mais les héros des films portent souvent des montres à leur poignet, et pas n'importe lesquelles. Un seul personnage incarné par plusieurs acteurs au fil des années. Il porte souvent un smoking, il aime des cocktails bien particuliers.
Vodka martini, shaken, not stirred.
Et il aime beaucoup les femmes.
Je vous aime.
Oui, James Bond a des goûts de luxe. Il aime les belles voitures, les jolis bateaux et évidemment les montres d'une certaine valeur. Au début de sa carrière, c'est Rolex qui accompagne l'agent secret, comme George Lazenby et son chronographe dans Au service secret de Sa Majesté, ou Roger Moore et sa Rolex Oyster. Dans les années 70, James Bond a aussi porté une montre Pulsar et même une Seiko. Mais dans les années 90, il est devenu fidèle. En tout cas, une marque, hein, parce qu'il continue à multiplier les conquêtes féminines. Cette marque, c'est Omega. James Bond est devenu fan du modèle Seamaster. Il en porte une au poignet dans chacune de ses apparitions à l'écran depuis 1995, avec Pierce Brosnan dans GoldenEye. Par la suite, les Omega Seamaster de James Bond ont été équipés de divers dispositifs, détonateurs, lampes torches, grappins miniatures, lasers. L'arrivée de Daniel Craig correspond aussi à l'arrivée d'un nouveau modèle, la Planète Océan. Omega veut bien sûr tirer profit de ce partenariat. Elle a créé des éditions limitées particulières qui rendent hommage à l'agent 007 et à ses 50 ans d'espionnage.
Et certainement que si les grands méchants de James Bond portaient un bracelet Geosatis, le travail de 007 serait moins pénible. José Demetrio, on va vous laisser tenter de démarcher les services secrets de Sa Majesté. Merci d'avoir été notre invité ce soir.
Merci à vous de m'avoir reçu.
Vous retrouvez cette émission dans son intégralité sur notre site internet. Et la semaine prochaine, on change de secteur, on passe au guichet. Depuis mai, c'est une femme qui est à la tête de la Banque cantonale du Jura. Christina Pamberg sera notre invitée dans Sortie de boîte. Très bonne soirée à tous.
Sortie de boîte.